la chanson populaire, la ritournelle, celle que tout le monde a dans la tête, cette chanson que prennent de haut souvent les intellectuels et tous ceux qui pensent, cette chanson peut-elle être un média politique? Peut-elle transmettre des messages politiques? Et si oui, est-elle parfois obligée, pour toucher le plus large public possible, d'affadir ces messages ou peut-elle rester dans une certaine radicalité? Alors, question posée en ce début d'année 2018 à propos d'une riche actualité nécrologique dans la variété française. Question que je vais poser à nos trois invités du jour. Rebecca Manzoni, vous êtes chroniqueuse musicale de la matinale de France Inter, où vous évoquez régulièrement tous les styles de musique. Et d'ailleurs aujourd'hui, jour où nous enregistrons notre émission, vous avez célébré votre 500e Pop & Co. Waouh. Thomas Negaroff, vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, chroniqueur à la télé, mais ce n'est pas à ce titre que vous êtes ici sur ce plateau, c'est au titre d'un documentaire sur le mythique opéra rock Starmania, documentaire dont vous êtes l'auteur et qui a été diffusé en janvier sur France 3, à l'occasion de la mort de France Gall. Enfin, Usul, chroniqueur, youtubeur, alors youtubeur d'abord, ensuite chroniqueur depuis peu sur Mediapart, une chronique vidéo. Vos centres d'intérêt vont de la politique au porno récemment, en passant par le porno politique, champ que j'imagine vous allez défricher dans les mois qui viennent, et en passant aussi justement par la variété, puisque c'est une de vos chroniques sur la variété française qui m'a donné envie de faire cette émission, de monter cette émission. Alors, cette vidéo, vous l'avez diffusée au moment de la mort de France Gall, vous la consacrez à toute cette génération Gall, Berger, Balavoine, etc. Et je voudrais tout de suite qu'on en voit un extrait.
À ce moment-là, on n'est pas cool quand on est soumis, qu'on baisse la tête ou qu'on est productif. Non, on est cool quand on résiste, y compris en musique. Hors de question de danser sur des musiques sans âme. France Gall, jadis une chanteuse yéyé parmi d'autres, avait fini par s'affirmer et devenir la France Gall qu'on allait retenir, pleine d'énergie, de révolte. Avec d'autres, elle participera à ces changements culturels majeurs, y compris dans l'avènement de ce nouvel imaginaire mondial de fraternité et de partage, ringardisé aujourd'hui par les réacs.
Une façon de se présenter, une façon d'envoyer des messages au public.
On a toujours, quand on a fait de la scène, ou quand là, j'étais toute seule pour en faire, parce que c'était à Bercy, mais on a toujours mélangé l'Afrique, l'Amérique, les Français, tout ça mélangé à faire de la musique, c'est toujours ça qui nous a intéressés.
Alors, c'est vrai que quand on regardait habituellement vos vidéos, on était habitué à voir traiter plutôt des sujets, alors attention, avec 40 guillemets, nobles, légitimes.
Bah, que... Pas que, parce que je viens du jeu vidéo quand même.
Oui, c'est vrai, alors, avant. Mais alors, vous aviez subi effectué une espèce d'ascension sociale vers les sujets politiques, intellectuels, etc. Puis alors, tout d'un coup, une rechute dans la chansonnette. Mmh.
C'est intéressant de voir comment les objets populaires sont porteurs souvent de sens politique et puis d'histoire aussi, d'une histoire politique. Là, c'est super intéressant. Moi, la période des années 80, ça me fascine de toute façon parce qu'il y a plein de mutations en France, la gauche au pouvoir, le tournant, la rigueur, tout ça. Et c'est une super porte d'entrée, la musique. Mais de la même manière que le cinéma ou le jeu vidéo ou plein d'autres trucs qui prennent... En fait, qu'on connaît. C'est des objets qu'on connaît. C'est pas chiant. On n'est pas obligé de rentrer dans du texte, de citer des hommes politiques morts qui emmerdent les jeunes qui ne savent même pas qui c'est. Voilà, bon là, il n'y a pas besoin de parler de tout ça, il suffit d'écouter ces chansons, on les connaît déjà.
Alors la musique, oui, mais je dirais la variété, et a fortiori la variété française, vous n'avez pas eu le sentiment de plonger au fond de l'illégitimité dans l'objet étudié?
Ben non, parce que c'est ce qu'on pourrait se dire, mais il y avait quand même eu en effet la mort de Johnny. Moi j'avais acheté Libé, le Libé avec, où il y avait tout dedans, alors il y avait plein de papiers. Enfin, ça intéresse tout le monde en fait, tout le monde connaît, tout le monde a un avis. Puis ensuite il y avait eu France Gall, alors, des éloges de partout, machin. C'était pas si illégitime que ça à ce moment-là.
Non, moi je trouve ça totalement légitime. Mais je vous formule les objections qu'on formule souvent. Et d'ailleurs au téléphone, vous m'avez dit que c'était un objet sur lequel vous sentiez peser un poids d'illégitimité.
Oui, mais en tant que, voilà, quand on manifeste un excès de sympathie et de familiarité avec cette culture-là, ça peut être mal vu, parce que c'est pas très branchouille, ça dépend des lieux, des espaces, des gens. aussi.
Plus aujourd'hui. Quand on écoute la variété, la chanson française, puisqu'on ferait encore la distinction entre variété et chanson française.
Il y a une distinction ?
Selon ce que vous dites, entre ce qui est illégitime, ce qui est noble et ce qui n'est
considéré
pas...
Considéré comme. Considéré comme.
Ce que je veux dire, c'est que les musiciens français d'aujourd'hui ne tiennent plus du tout compte de ces hiérarchies. Une jeune femme comme Fisbach revendique son attachement à Daniel Balavoine. Une jeune femme comme Juliette Armanet, qui a remporté la victoire de la musique Révélation, dit son intérêt pour Michel Berger
ou Véronique
Sanson. C'est-à-dire que la façon d'écouter la musique aujourd'hui sur les plateformes d'écoute ou par le système des playlists, on peut passer de Sheila à Alain Bashung, cette hiérarchie-là, elle n'existe absolument plus, et dans la façon de l'écouter et dans la façon de la faire.
C'est-à-dire quand vous faites une distinction entre chanson et...
Non, mais je vous pose la question. C'est pas moi qui fais la distinction.
Non, mais je vous pose la question parce qu'on s'est demandé dans l'équipe comment il fallait appeler cette émission. Est-ce qu'il fallait parler de chansons populaires? Est-ce qu'il fallait parler de variété, etc.? Puis certains dans l'équipe ont dit non, mais variété, c'est quand même très péjoratif. C'est péjoratif, variété?
Je trouve pas, non.
Ça sonne variétoche.
Ah oui,
c'est péjoratif. Alors que chanson, il n'y a pas de terme comme ça péjoratif. Mais juste sur la dimension péjorative, il y a quand même un domaine qui résiste, qui est le mien, celui des historiens, qui ont après longtemps, acquis le cinéma dans leur corpus de réflexion, ça fait quand même longtemps, le sport. Mais la chanson résiste encore. Il y a des historiens du jazz, Ludovic Tournès, de ces genres dits nobles, ou de la musique classique ou de l'opéra, mais des historiens de la variété française, dans le sens variétoche, celle qu'on a en tête, celle qu'on aime, ça résiste encore beaucoup. Donc il y a quand même un peu de cette... En tout cas, l'université...
Comment on peut l'expliquer ?
Pour moi, c'est inexplicable. Quand on fait de l'histoire culturelle, par exemple, où on est allé très loin, parce qu'Alori a fait une histoire du bronzage, on est allé vraiment très loin dans des objets qui apparemment étaient illégitimes. Mais là, ça résiste, et c'est comme vous le disiez, aberrant, quand on veut penser le monde dans lequel on vit, de sortir d'un champ culturel aussi riche, aussi fécond, et qui marque autant de monde. Voilà, vous avez l'invention du bronzage, très rapide en régie ici.
C'est Adèle Bello. Signé Adèle Bello.
Ouais, impressionnant.
J'ai un copain qui fait sa thèse en sciences politiques sur musique et politique, justement, Thibaut Jean de Mange. Il est perçu par ses collègues comme... un hétérodoxe, quoi. Il fait ses trucs musique et politique. Alors, du coup, il va vers la chanson, il regarde la chanson, il regarde même les musiques de campagne, d'où le fait qu'on avait fait l'air de la campagne pour Mediapart avec lui, j'avais fait avec lui. Et oui, c'est perçu comme, attends, tu mélanges tout,
Est-ce que c'est pas lié, pardon, à une espèce de réticence du milieu de la musique, et notamment, par exemple, des producteurs, des majors, etc., qui n'ont pas forcément envie que des historiens viennent mettre leurs mains sales et casser les mythes je pense par exemple à ces histoires qui sortent ou qui vont sortir là, sur Claude François et les adolescentes, etc. À partir du moment où il va y avoir une histoire de la variété, on va sortir tout ça. S'il y a des choses à sortir, j'en sais rien.
Et je pense que c'est plutôt du fait des historiens. Hein. C'est l'objet culturel populaire, par excellence, qui repousse un peu.
Au contraire, je trouve que le milieu de la musique et tous ceux qui sont associés à la variété auraient tout avantage à ce que des historiens s'intéressent à ce champ-là. Ça le crédibiliserait, ça lui donnerait un gage de respectabilité d'une certaine façon.
Y compris à propos de chanteurs encore vivants, encore en activité, et sur lesquels, du coup, on pourrait apprendre des choses qu'en général, on va dire, la com des maisons de disques.
Ouais, je pense que le champ de l'histoire culturelle n'irait pas vers ça, il irait plutôt vers ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Le reflet d'un temps, d'un moment, ce que ça dit d'une époque, l'horizon d'attente d'un public par rapport à un moment donné, pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas, l'histoire du tube, c'est fascinant. L'histoire du tube, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, la fabrique du tube, les Stockett, Kenny Waterman des années 80, les types qui savaient faire. Je me souviens de Aznavour qui racontait que pour faire un tube, c'était facile, il suffisait de mettre trois notes en mineur, je me souviens plus ce qu'il racontait, mais il y a plein de choses à raconter pour l'historien, c'est un champ formidable et qui est encore à défricher, donc c'est...
Résiste, France Gall, c'est une chanson politique, franchement.
Ça peut l'être, non, mais c'est un moment. C'est un air du temps à un moment où, en effet...
Je comprends pas pourquoi vous avez un doute.
Je vois pas où est le message. Non, mais je vois pas où est le message. Non, mais résiste, alors c'est un verbe transitif qui appelle un complément d'objet direct. Résiste
non,
à quoi,
là,
en fait ?
C'est conjugué à l'impératif.
Résiste à quoi ?
Mais résiste à la norme. Résiste à... C'est ça, le sens de cette chanson ? Prouve que tu existes, c'est ça, c'est soit toi-même.
Je résiste, donc j'existe.
Ne sois pas gavé par tout ce qu'on veut te faire avaler. C'est ça, ce que ça raconte, cette chanson. Ouais, évidemment
c'est
ce que c'est politique.
Mais c'est pas toujours.
Mais bien sûr que si. Relisez le texte. Qu'est-ce qui vous... Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui vous fait douter que c'est une chanson...
Le fait qu'on ne sache pas exactement à quoi il faut résister. Alors, on va voir plus tard d'autres...
L'égoïsme.
Mais résiste au mauvais temps, résiste à la pluie.
Justement, c'est pas une chanson qui dit « la pluie s'amouille et la paix dans le monde s'amouille ».
Résiste à l'égoïsme, tout le monde va être d'accord que oui, il faut résister à l'égoïsme. Je veux dire, c'est pas bien d'être égoïste, il vaut mieux être généreux qu'égoïste. Vous voyez, il y a un côté consensuel quand même, pardon.
Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y en a qui vont dire l'égoïsme de chacun, finalement, a des vertus pour le groupe parce que machin, on va poursuivre son intérêt. Enfin, c'est de tout le...
Non mais vous, alors, vous qui venez du marxisme, de l'extrême-gauche, qui avez une culture politique, voilà, charpentée par ce... par ce milieu-là, vous ne trouvez pas que résiste à l'égoïsme, quand même, au niveau du contenu politique, c'est un peu pauvre.
Mais non, parce que c'est simple, c'est très bien. C'est très bien, il faut penser aux affects, aux émotions que ça suscite aussi.
Et puis, on est en 81, c'est pas n'importe quand. On est au début d'une espèce d'ère libérale où l'individualisme prend le pouvoir. Encore une fois, ça rencontre à un moment donné. C'est pour ça que les chansons, quand on les lit à des moments différents, de manière différente. Aujourd'hui, on n'entend pas Résiste de la même manière qu'en 1981.
Et c'est pour ça qu'en 81, on entend.
J'imagine, je sais pas, mais c'est, j'ai trop petit garçon, mais en 81, j'imagine qu'on a pu entendre Résiste. Peut-être comme un cri d'une génération qui voulait pas être aspirée dans cette espèce d'aspirateur libéral avec Thatcher en Angleterre. Pourquoi pas ?
L'URSS de l'autre côté.
Et avec l'URSS de l'autre côté, bien sûr.
Mais attendez, vous faites dire à France Gall... Attendez, excusez-moi.
Fait, par exemple, quand vous parlez de l'évolution du sens de la chanson avec les années, Résiste est devenue une comédie musicale les premières ont eu lieu le 15 novembre 2015. Donc 2 jours après les attentats du Bataclan. Contre le Bataclan, voilà. C'est-à-dire que le sens de cette chanson a pris, est devenu autre.
Mais du coup, ce n'était pas du tout prévu.
Pas l'enjeu.
Ça veut dire qu'une grande chanson poétique, c'est une chanson qui doit totalement s'adapter au contexte dans lequel elle va être reçue, c'est ça ?
C'est une chanson qui peut avoir... c'est comme les valises à double fond, quoi. Une chanson change de sens au fil du temps. Et le 15 novembre 2015, le sens de Résiste n'est pas le même que celui que la chanson avait en 1981. Et c'est aussi la preuve que c'est la qualité d'une bonne chanson, que c'est que sans mauvais jeu de mots, elle résiste au temps et qu'elle continue de raconter quelque chose de l'époque.
Oui, et pour prolonger, il y a 2 dimensions politiques à une chanson. Il y a son discours, de ce qu'il dit dans les mots quand on les lit, et puis il y a la réception d'un public. Et ça, la réception du public, elle évolue avec le temps. Et la chanson, c'est un test de Rorschach, quoi. Le monde regarde la chanson et la chanson prend un sens différent en fonction de celui qui la regarde. Et c'est en ça que c'est très politique. Et c'est pour ça que c'est en ça aussi que des chansons qui n'ont pas l'air du tout politiques à certains moments peuvent le redevenir. On évoquait ensemble au téléphone Johnny Hallyday. Et il y a des chansons de Johnny sur la souffrance, sur le malheur, etc., qui ont pu devenir politiques à certains moments, qu'il n'était pas quand il les a composées, il ne les a pas composées lui-même. Mais je pense que, encore une fois, je prêche un peu pour ma paroisse, mais l'histoire, c'est quoi ? C'est la mise en ordre du passé et la contextualisation permanente, quoi.
On en écoute une ?
Allez,
un bout.
Est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends pour mort. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau.
Ça, c'est politique. Non, c'est une question.
Je ne pense pas que ce soit une chanson politique, cette chanson. Non, je ne crois pas.
Une fois, il suffirait que quelqu'un d'autre la chante. Par exemple, quelqu'un qui ne soit pas blanc dans ce pays. Et hop, ça peut devenir quelque chose de politique. Si ça rencontre une opinion publique en face et que ça matche avec un débat du moment, ça peut devenir politique.
Mais alors, où Johnny est-il politique ?
C'est Johnny et sa génération. Ils sont politiques dans la mesure où, même si leurs chansons sont largement apolitiques, et on en parlera, c'est certainement aussi une stratégie market de ne pas trop cliver, il a quand même rencontré une génération, hein, Jean-François Cirinelli a bien documenté cette génération des baby-boomers, qui est née avec ça, quoi, avec Philippe Aki, avec Salut les copains. Et donc, il y a une génération qui a émergé, hors des clous des adultes, les jeunes, avec des idoles, qui ne chantaient pas des chansons politiques, mais qui ont fait émerger une génération. Et une génération, si ça c'est pas politique, je ne sais pas ce qui est politique.
On donne une voix à une génération, en fait.
Qui sont reconnus hors des cadres. Des cadres de leurs parents.
D'accord avec ça ?
Oui, puis il faut revoir, faut recontextualiser aussi ce que c'était que la sensualité de Johnny à l'époque, oui. À l'époque où il y a encore le curé du village et où maman et papa vont encore à l'église le dimanche. Mmh. C'est très politique de dire non, nous on va regarder le déhanché qui était aussi scandaleux que le déhanché d'Elvis quand Johnny il arrive.
Donc, alors en même temps, il y a aussi dans le, s'il faut parler de messages de Johnny, il y a aussi dans les messages de Johnny, comment dire, l'américanisation et l'éloge des grands mythes américains et la récupération des grands mythes américains.
Oui, il y a toute une esthétique qui est au travers de toutes les chansons. Mais j'en ai parlé aussi dans l'émission, quoi, en comparant ça au fait qu'à ce moment-là, s'opposer, où il y avait vraiment deux écoles. Voilà, Johnny a participé à cette américanisation un peu des esprits. Et puis en face, il y avait plutôt dans les années 60, des espèces de chanteurs, ou 70, chanteurs plus engagés, machin, qui étaient un peu plus vieille France, ou des Léo Ferré, ou des Brassens, ou des
chansons rive gauche.
Voilà, et puis Johnny, plus dans un mainstream américanisant. Et les héritiers, c'est vrai, des Brassens, des Ferré, machin, dans les années 80, c'est plutôt s'oriente plus vers des trucs tiers-mondistes. C'est encore une autre esthétique. Mais l'esthétique américaine, oui, c'est Johnny le porte-étendard de ça. Mais c'est pas le seul. Il y a tous les yéyés. France Gall aussi, à un moment, elle aussi, elle porte ça dans les années 60.
Mais alors, est-ce que c'est pas justement, parce que votre vidéo est quand même plutôt consacrée, je le disais, à l'émergence Balavoine, Berger, Gall, etc. Et on a le sentiment que, pour le coup, là, on a une mouvance qui tient délibérément des propos politiques dans ses chansons, à la différence de Johnny et des Yéyés, dans lesquels on voit, en tout cas dans les textes, un refus radical de prendre quelque position politique que ce soit, d'aborder quelques questions politiques que ce soit.
– Je voudrais nuancer un truc juste sur, l'américanisation. En France, par exemple, dans les années 68 ou dans les années 70, l'américanisation, ça veut aussi dire les mouvements féministes qui nous viennent des États-Unis. Ça veut aussi dire les mouvements pour les droits civils qui nous viennent des États-Unis. Donc cette américanisation, c'est pas que le capitalisme, l'argent, le machin, c'est aussi la contre-culture.
– Johnny est assez peu porteur de messages féministes ou de messages sur les droits civils.
– Oui, bien sûr. Mais l'américanisation, c'est pas juste le capitalisme.
– Non, bien sûr.
– C'est vrai que les yéyés, ils sont politiques par uniquement leur présence. Plutôt que par leur discours, effectivement, par leur façon de bouger, par leur mode de vie, par leur nom américanisé, par leur musique adaptée, souvent des standards américains, etc. Et effectivement, ils sont passeurs de ce que l'humanité avait appelé cette coca-colonisation après la Seconde Guerre mondiale. Il y a un peu de ça, effectivement. Et ça, c'est très politique. C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que politique égale progressisme. On peut très bien être conservateur ou véhiculer des valeurs qui ne sont pas celles du progrès, entre guillemets, social. Johnny Hallyday n'est pas vecteur de ces valeurs-là, et alors, pourtant, il est très politique.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il est de droite dans ses... non, pas lui, le citoyen, mais dans ses chansons.
J'en sais rien. Je ne sais pas. Ouais. C'est difficile d'aller... Ouais. Il y a tellement peu d'indices, en réalité, dans ses chansons, qui sont en fait... J'ai regardé un peu ça. Quand il est mort, on a tous retrouvé un peu du Johnny. Et il y a quand même un fil directeur dans beaucoup, beaucoup de ses chansons, c'est le malheur. Le type qui aurait pu être heureux, mais qui ne l'est pas. Est-ce que c'est de droite, est-ce que c'est de gauche? Ça, j'en sais rien.
Mais enfin, Johnny, c'est aussi le symbole de l'artiste et en même temps, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, je vais faire une chanson sur l'écologie, et puis ensuite, je vais dire que le pétrole, c'est génial. Donc, mais je reviens sur une chose que vous avez dite, c'est quand on pense politique, on pense progressiste, mais quand on pense politique, on pense idéologie aussi. Mmh. Or, la politique, ça n'est pas que l'idéologie.
C'est clair, comme on va le voir tout à l'heure.
Ouais. Oui, et puis il y a un truc aussi, c'est qu'à travers ce mode de vie, il est politique, parce qu'en fait, c'est le mode de vie libéral. Alors que les structures mêmes ne sont pas encore libéralisées, on va dire, même avant Giscard, est importé un mode de vie qui conteste l'autorité du curé, l'autorité morale, et puis un mode de vie adapté à une gouvernementalité libérale qui n'est pas encore là et qui va advenir après, mais précisément aussi parce que ce mode de vie est là. Et ça c'est très politique. Donc en ça, les yéyés, cette libération, machin, et 68, tout ça concourt à un vaste mouvement libéral, en fait.
Alors, toujours dans les années 80, alors là, pour le coup, pour prendre des chansons, à mon sens, quand même beaucoup plus explicites dans leur, dans ce qu'elle dénonce ou prophétise. Évidemment, Starmania, auquel vous avez consacré donc ce documentaire diffusé sur France 3 en janvier, dont je voudrais tout de suite qu'on écoute un petit extrait. Alors, non pas de Starmania, mais du documentaire.
C'est même plus d'actualité aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ans, parce que, bon, président de l'Occident, je crois que c'est... On n'est pas loin de ça, on est un président de l'Europe maintenant.
Là, c'est vraiment le monde dans lequel on vit aujourd'hui. La médiatisation à outrance, c'est vraiment le monde tel qu'il est aujourd'hui.
Le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est aussi ça, l'incroyable histoire de Starmania. Monopolis a pris corps au début des années 80, partout, d'immenses mégapoles sortent de terre. Les réseaux infinis qui les relient font naître ce que les géographes appellent un archipel métropolitain mondial. L'opéra rock ne cesse de révéler ses prophéties. Les actes terroristes, la montée des discours autoritaires, l'ultra-médiatisation. Télécapital, la chaîne de Starmania, est diffusée sur toute la planète avec l'explosion des chaînes privées et des satellites alimentés par les mêmes programmes. Tout le monde peut se retrouver dans l'écran. Tout le monde veut y apparaître pour exister. La Starmania est en route.
J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro.
Voilà, et effectivement, et selon vous, Starmania a aussi prévu Berlusconi, c'est-à-dire le mania des médias qui accèdent au pouvoir, Trump, c'est-à-dire la vedette de réalité décolorée qui...
Dans la tour dorée.
Dans la tour dorée.
Ben, ouais, c'est frappant. Hein.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a... Alors, vous êtes spécialiste de l'Amérique, vous.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a déterminé à vous...
Faire engueuler.
À vous intéresser à Starmania.
Alors, excusez-moi. En fait, c'est Olivier Amiot qui a réalisé le film, qui connaît... C'est très bien France Gall pour avoir fait ce fameux, si vous vous souvenez, Gall par Gall, France Gall par France Gall en 2001, qui était le retour de France Gall. Didier Varro avait fait des entretiens de France Gall, c'était Olivier qui était derrière ça. Il avait fait aussi ensuite un portrait croisé de Berger et Gall. Et il y avait le projet d'en faire un Starmania. Et ça rebondit un peu sur ce qu'on disait au début, sur les objets culturels, populaires, etc. Il avait bien aimé le travail que j'avais fait sur Star Wars, où j'avais écrit un essai historique sur Star Wars, en jouant sur l'idée que Star Wars racontait en fait l'histoire de l'Amérique dans ces deux trilogies, en oubliant la dernière qui est moins intéressante, mais les deux premières. Et donc ça l'intéressait beaucoup d'avoir ce regard aussi un peu sur Starmania, dont il présentait la dimension politique.
Ouais. Vous pouvez développer sur le rapport entre Star Wars et Starmania, parce que ce n'est pas forcément évident a priori.
Alors, on ne l'a pas gardé dans le film, et c'était un enjeu, parce que, bon, il y a des rapports très forts. Hein. L'idée que le bien et le mal sont mêlés dans le même univers, que la démocratie est fragile, fragilisée, parce que la Boétie avait appelé la servitude volontaire. On est là-dedans. Les gens qui veulent passer à la télé, qui sont prêts à abdiquer toute liberté aussi au nom de la sécurité, on trouve ça dans Star Wars, on trouve ça dans Starmania. L'étoile noire, l'étoile de la mort. Il y a quand même pas mal de porosité. Plamondon a refusé l'hypothèse qu'il pouvait y avoir davantage de liens entre les deux.
Mais on lui a soumis la question.
Moi, j'en ai parlé.
Et
oui, il aime bien Star Wars, mais il va pas non plus. Il va pas aller au-delà. Mais peut-être que je me trompe, peut-être c'est juste un moment. Mais vous savez que Georges Semprin avait écrit une adaptation de Starmania pour en faire un film. Il y a un scénario extraordinaire. J'ai découvert ça. Et quand on le lit, on a vraiment le sentiment de lire encore plus le scénario de Star Wars de George Lucas. Mais c'est la même période. Hein. C'est 77 Star Wars, 78 Starmania, l'album. Et le...
Vous avez interrogé Plamondon sur ses influences. Je veux dire, par exemple, il y a un thème, c'est ce thème de la dictature en démocratie. C'est-à-dire on est dans une démocratie apparente et en fait, on est dans une espèce de dictature médiatique et tout. Et on ne peut pas ne pas penser, il est canadien, Plamondon, on ne peut pas ne pas penser à Noam Chomsky, dont c'est un des thèmes favoris.
Ouais.
Alors, il a lu Chomsky, Plamondon ?
Quand on a préparé le film, on l'a vu à plusieurs reprises, on lui a montré pas à pas. Ouais. Il était très touché par l'idée que des gens s'intéressent au contenu des textes. Parce que ces gens-là en ont un peu marre qu'on n'écoute que leurs chansons. Et l'autre jour, j'étais au studio 105 à la maison de la radio et Rebecca Manzoni interrogeait Juliette Armanet qui expliquait que sa génération piochait des morceaux par-ci par-là et n'écoutait plus les morceaux dans leur entièreté. Or là, on est quand même sur un opéra rock. Qui aurait l'idée de mélanger, de faire du random sur un opéra? Et donc, ça l'agace un peu, Plamondon, d'envisager que des gens fredonnent...
Alors, ma question sur Chomsky.
J'y arrive. Et donc, il était intéressé par l'idée qu'on puisse s'intéresser au fond. En revanche, il résiste, lui aussi, à l'hypothèse qu'il y ait des influences extérieures. Il m'explique l'importance du terreau contre-culturel du Québec, très important des années 60. C'est vraiment un truc, dans sa jeunesse, très fort contre l'impérialisme américain, le voyage de Gaulle, ce que ça peut vouloir dire, même s'ils ne sont pas gaullistes, pas du tout, cette génération-là, mais Chum Radio, etc. Il y a des tas d'organes contre-culturels qu'on retrouve d'ailleurs, Star Wars, en Californie, à peu près au même moment, donc il y a quand même des porosités entre les deux. En revanche, Chomsky m'en a pas parlé. Mais c'est sûr qu'il y a des tas d'éléments politiques, mais le sujet lui-même, qui vient de Michel Berger, était très politique, puisque c'est l'histoire de Patricia Hearst, vous savez, cette petite fille de Citizen Kane, hein, enlevée par ses ravisseurs, et qui ensuite bascule du côté obscur, puisqu'elle prend fait et cause pour ses ravisseurs, au point d'être ensuite condamnée pour avoir été...
Ça, c'est le sujet originel de l'opéra, et ensuite, c'est un peu dévié quand même.
Mais pour dire que le sujet originel est hyper politique, mais pas prophétique, et que Plamondon y a apporté une dimension prophétique en sortant du cadre très étriqué de Patricia Hearst pour aller parler du monde d'aujourd'hui et surtout de demain.
Sur Starmania, je ne sais pas tous les deux si vous avez un vécu, tout le monde a un vécu avec Starmania.
Pas particulier, j'avoue.
Ah, c'est vrai ?
Non, oui.
C'est-à-dire que vous n'aimez pas ?
Ah non, c'est pas que j'aime pas, c'est que je connais assez mal, en fait. Donc je...
D'accord.
Avec grand plaisir.
Usul ?
Ah, bah moi j'ai écouté, évidemment, avec. C'est des chansons de tout petit, quoi. Parce que c'est, comme je le disais aussi dans la vidéo, tout ça, c'est des chansons des années 80, c'est des chansons de mes parents. C'est des chansons que ma mère écoutait, donc c'est des trucs, tu baignes dedans, tu réfléchis même pas, t'imprègnes. Et ça devient en effet des... moi, je pouvais pas m'imaginer, par exemple, être serveur sans avoir en tête la chanson de la serveuse automate, parce que ça avait marqué. Et c'était, voilà, une chanson très triste, d'ailleurs.
Oui.
Bon, bah, c'est... Non, oui, j'ai infusé aussi là-dedans, ouais.
Alors, on parlait tout à l'heure de la réception. La réception peut varier. Une chanson, enfin, une grande chanson, une chanson durable, elle est un peu caméléon, c'est-à-dire elle s'adapte aussi au public qui l'écoute à différents moments. Et elle s'adapte aussi aux reprises qui peuvent être faites de cette chanson. Et alors, je voudrais qu'on prenne un exemple à travers une chanson de Michel Berger, d'abord chanté par Berger, mise en image dans le clip de Berger, et ensuite chanté par L'Âme, loin de chez eux, évidemment.
Qui a volé leur histoire? Qui a volé leur mémoire? Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir? Celui-là voudra les bons, celui-là comptera les jours, en alignant des bâtons comme les barreaux d'une prison.
Qui a volé leur histoire? Qui a volé leur mémoire? Qui a piétiné leur vie comme on marche sur un miroir? Celui-là voudra des bons, celui-là comptera les jours, en alignant des bâtons.
Alors, le fait, effectivement, de choisir un habillage d'image qui est totalement différent de l'habillage originel, c'est quoi? C'est une trahison? C'est une adaptation?
Bon, c'est une réappropriation aussi, j'imagine. C'est-à-dire que déjà, on fait une reprise. Alors, si en plus, on est dans la même grammaire visuelle, ça fait beaucoup, quoi. Voilà. La différence aussi, c'est que là, la âme se mêle au personnage du clip, ce qui n'était pas le cas de Michel Berger, où il était d'un côté et puis les personnes dont il parle dans son texte de l'autre. C'était monté. Là, elle se mêle au protagoniste.
Alors, le sous-texte de ma question, je pense que vous le comprenez, c'est-à-dire que la chanson originelle est une chanson, on va dire, de soutien ou de solidarité avec tous les migrants, tous ceux qui sont loin de chez eux. Donc, dans la mise en image originelle, on est sur des images qui évoquent, je ne sais pas quoi, moi, l'Asie, l'Afrique, le tiers-monde. Faire passer cette chanson sur un cadre de gratte-ciel...
Oui. Il y a une esthétisation qui est assez insupportable. Surtout que je pense que dans le clip de Berger, je ne pense pas que ce soit des comédiens. J'ai le sentiment qu'on a des images d'archives, d'actualité. Là, je ne crois pas que ce soit des comédiens. Donc, on est vraiment à deux moments différents et à un rapport totalement différent et très esthétisé. Avec la chanteuse au milieu, on se demande ce qui est le plus important, si c'est la chanteuse ou la cause qu'elle défend. Il y a un vrai détournement de l'esprit politique de l'œuvre de Berger.
Tu vous trouvais insupportable?
Moi, oui. Enfin,
ouais. Ça raconte pas du tout la même histoire, c'est vrai. Alors déjà, le passage en noir et blanc, je sais pas trop pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'elle raconte plutôt une histoire d'une immigration passée. Il y a des images d'archives, de trucs qui se construisent. Et puis elle, au milieu de... Enfin voilà, elle en a raconté une autre histoire qui m'a l'air d'être plus celle de l'immigration... Voilà, on voit les vieilles images d'archives, de l'immigration avant et puis maintenant, ce qu'il en reste. Voilà, alors que Michel Berger parle plutôt du monde maintenant et de tout ce qui se passe à son époque ailleurs. Elle parle en fait d'ici et de maintenant. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a voulu tourner un bout à New York avec des gratte-ciel derrière. Parce que là, pareil, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si là, c'est elle qui est loin de chez elle, pour le coup.
C'est vrai. C'est peut-être ce qu'elle veut dire, d'ailleurs.
Mais oui.
Ce qui rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire qu'elle se met au milieu de la...
Oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment elle qui...
C'est une autre histoire, du coup. Elle raconte une autre histoire avec la même chanson.
C'est clairement une autre histoire. Alors, quand on parle de chansons, de messages, de politique, etc., il y a évidemment une étape essentielle, qui est l'étape du rap, qui est une étape assez longue. Alors, bon, je pense qu'on ne va pas avoir un très grand débat pour savoir si les paroles, si les chansons si certaines chansons de rap sont des chansons politiques. Bien sûr que oui. Bien sûr que ça fait entrer dans l'espace public les cages d'escalier, les horizons bouchés, les condamnations à perpétuité, au contrôle d'identité, au contrôle aux faciès. Voilà, donc là, il y a un message politique qui, pour le coup, paraît extrêmement lisible, extrêmement évident. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est encore une fois, à mon sens, la différence de réception selon les époques des chansons de rap. Alors, je voudrais qu'on prenne un exemple avec IAM.
La vie est belle, le destin sans les cartes, personne ne joue avec les mêmes cartes. Le berceau lève le voile, multiples sont les routes qu'il dévoile. Tant pis, on n'est pas né sous la même étoile. Pourquoi fortune et infortune? Pourquoi suis-je né les poches vides? Pourquoi les siennes sont-elles pleines de thunes? Pourquoi j'ai vu mon père en cycle partir travailler? Juste avant le sien en trois pièces grises et BMW la monnaie. Est une belle femme qui n'épouse pas les pauvres. Sinon pourquoi suis-je là tout seul, marié sans dot? Pourquoi pour lui c'est crèche et vacances? Pour moi c'est stade de foot, sans cash, sans filet, sans même une ligne blanche.
Alors, message politique en effet très fort sur l'inégalité des chances au départ, ce qui n'a pas empêché cette chanson d'être, on va dire, reprise, non pas en musique, mais en discours, pendant la dernière campagne présidentielle.
Eh bien oui, la culture, notre culture, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui permet à chacune et chacun de sortir de sa condition et d'accéder à un commun. Parce que oui, ce n'est pas ici que je vais vous l'apprendre. Nous sommes bien nés sous la même étoile.
Bah non, Usul.
C'est bon, oui, la chanson, c'est « On n'est pas nés sous la même étoile », et lui, il dit « si ».
Alors, attends, le titre de la chanson, c'est « Né sous la même étoile ».
Oui, oui, mais dans les paroles, il dit l'inverse. Moi, je m'étais servi de cette chanson-là pour illustrer un moment Bourdieu, Les Héritiers, et j'avais juste mis, je crois, précisément ce passage-là, parce que ça explique très bien qu'en effet, selon là où tu nais, t'as pas les mêmes chances, de façon toute simple, et puis en plus, c'est des paroles qu'on a en tête. Et lui te dit non, on est né sous la même étoile. Enfin, il y a une manipulation.
Je crois que c'est Mélenchon qui avait pointé l'erreur d'ailleurs.
Oui, immédiatement pointé sur les réseaux sociaux, ça au bout de deux minutes.
Par rapport à qu'est-ce qui est politique ou pas, la chanson est politique. Bon, déjà cette chanson d'IAM au départ l'est, mais ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont les politiques instrumentalisent la chanson. Bon, on en a un exemple ici, mais tout ce qui concerne la publication des playlists, par exemple, c'est de la communication politique. Et Obama...
Quand les politiques mettent leurs playlists en ligne, voilà.
Voilà, c'est ce que...
Dis-moi ce que tu écoutes et je te dirai qui tu es.
Voilà, et je te dirai comment je pense. Et l'élection présidentielle de 2007, oui.
La première d'Obama.
Alors, Obama a commencé, et ensuite, les candidats à la présidentielle française se sont mis, eux aussi, à publier leur playlist avec les chansons qu'ils écoutaient, et sachant qu'à chaque fois, en fonction de ce qu'on publie, on veut toucher son électorat, en élargir un autre. Donc, Nicolas Sarkozy va écouter Enrico Macias, et en même temps, Gilbert Montagnier, et voilà. Tout ça, c'est une instrumentalisation de la musique à des fins de communication politique.
Alors ça, c'est sur le versant des politiques, maintenant sur le versant des artistes. La chanson d'IAM, elle date de 97. Est-ce que en 97, un homme politique de premier plan aurait pu comme ça impunément se l'approprier ou est-ce que le fait que 20 ans plus tard, finalement, au bout de 20 ans, un candidat, on va dire, de centre droit, ou je ne sais pas très bien où, mais le candidat Macron se l'approprie, ça dit quelque chose sur la manière dont une chanson à l'origine plus radicale, finalement, rentre dans le mainstream.
Non, je pense que ça dit quelque chose du fait que Ayam, c'est devenu du patrimoine marseillais. Et là, il était à Marseille, il veut se faire mousser, alors il cite Ayam. Mais comme ça, quoi.
Mais ça raconte surtout notre perception du rap. C'est-à-dire que le rap, aujourd'hui encore, pour certains, c'est pas de la musique, c'est pas de la chanson, je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, on va dire depuis le début des années 2000, c'est la bande-son dominante. Enfin, je veux dire, le rap est aux années 2000 ce que le rock'n'roll est aux années 50 et 60. Donc, à partir de là, et c'est le cas en France, hein, quand vous regardez les titres les plus streamés, par exemple, ou les plus écoutés sur les plateformes d'écoute, comme Spotify ou Deezer, ce sont des titres de rap. Donc, pour que les hommes politiques s'adressent à ne serait-ce qu'à la jeunesse, ou en tout cas aux enfants de ceux qui vont voter pour lui, ben voilà, on cite du rap. C'est une forme d'institutionnalisation du rap, d'une certaine façon.
Et alors, du coup, est-ce que selon vous, qui connaissez évidemment très bien cette forme musicale, est-ce que ça a conduit d'une manière générale les rappeurs à être moins mordants, moins radicaux, moins frontaux ?
Non, je crois pas.
Non ?
Non, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui dans le rap par rapport aux sujets qui sont traités, c'est que c'est un genre qui est suffisamment mûr pour s'amuser de ces clichés. Le gamin de la cité, le gars misogyne, les rappeurs d'aujourd'hui jouent avec ça. Ils s'en amusent et les détournent. Et l'exemple, c'est effectivement l'homme pâle. Alors ça, c'est un mouvement qui a été initié aux États-Unis.
Alors, l'homme pâle, je précise que Usul ne connaissait pas au début de cette émission. Hein. Et moi, que je ne connaissais pas au début de cette semaine quand vous m'en avez parlé. Donc c'est lui.
Donc l'homme pâle, c'est un Parisien qui a publié un album en indépendant en juin dernier, qui s'intitule Flip. Qui est à la fois le nom d'une figure de skate, mais aussi qui signifie le retournement. Ce qui illustre d'ailleurs la pochette de son album, puisque il est maquillé avec les vêtements de sa mère, il porte les vêtements de sa mère, les boucles d'oreilles de sa mère, donc il apparaît en travesti sur la pochette de son disque, et tout le monde a insisté sur le fait que voilà, un rappeur apparaît en travesti sur une pochette d'album. C'est pas le premier à apparaître en travesti sur une pochette de disque, puisque Gainsbourg l'avait fait en 84, mais photographié par... En France, oui. Aux États-Unis, non. C'est... Enfin, y a...
Hip-hop aussi, des trucs comme ça.
Pas sur des pochettes de disque.
Ah, peut-être pas sur la pochette, non.
L'histoire d'Ayam, là... et encore une fois, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je veux juste prendre un exemple, l'exemple de Renaud. Les textes, là, nés sous la même étoile... Vous mettez ça avec un prolétaire, le père, son père et le bleu de travail, c'est une chanson de Renaud, c'est la même histoire. Pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas alors que d'autres y arrivent, tu vas mourir au travail, etc. Renaud contre culture, années 70, la classe politique, il est quand même dangereux, Renaud. Et puis en 88, il fait la campagne pour Tonton. Vous vous souvenez très bien.
Tonton, laisse pas béton.
Laisse pas béton. Et il a été réincorporé. Alors là, lui, à son corps volontaire. Alors que là, Ayam, je ne suis pas sûr qu'ils étaient contents de faire la promo d'Emmanuel Macron. Mais c'est intéressant quand même de voir, avec à peu près la même échelle de temps, une vingtaine d'années, comment on passe d'un discours très radical, prolétaire, parce que finalement, le discours d'Ayam, c'est aussi un discours prolétaire, d'une certaine manière, une sorte de nouveau prolétariat. Ensuite est réapproprié par la classe politique dominante, mainstream, centre, centre-gauche, qui s'en fait aussi un outil politique sans nécessairement être à Marseille. Quoi.
Mais avant que la classe politique dominante se réapproprie ça, il faut que ce soit devenu, que ce soit plébiscité par le public.
C'est pour ça qu'il faut du temps.
Mais ça, c'est toute l'histoire de la musique. C'est-à-dire qu'au départ, qu'il s'agisse par exemple de la musique punk, c'est souterrain, underground, et puis ensuite, ça devient grand public.
Alors, l'exemple de Renaud, il est intéressant. Parce que, alors, ma question de tout à l'heure sur l'affadissement, est-ce qu'on n'est pas obligé d'aller dans le consensus ? Plus on a de succès, est-ce qu'on n'est pas obligé d'aller dans le consensus ? L'exemple de Renaud, il est génial. Parce qu'il faut quand même réécouter une des premières chansons de Renaud, qui s'appelle Hexagone. On va juste réécouter le début.
Ils s'embrassent au mois de janvier, car une nouvelle année commence. Et depuis des éternités, la poix tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque, pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine, chez nous aussi, fonctionne encore. Elle naît sous le signe de l'Hexagone. C'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierai pas qu'il est flamand.
Il y a des variantes, hein. Des fois c'est allemand. Hein. Des fois, c'est... Mais alors là c'est, je veux dire, il fait allusion à Charonne, donc Charonne, des morts lors d'une manifestation contre la guerre d'Algérie. Et 13 ans plus tard, celui-là on est en 75, donc 13 ans plus tard en 88, il va donc soutenir Mitterrand. Mitterrand qui, je le rappelle, a été au moment de la guerre d'Algérie, dans les années 50, un ministre de l'Intérieur absolument implacable.
L'Algérie, c'est la France.
Bon, c'est quoi ça? Donc c'est une trajectoire individuelle de voilà,
oui,
et pas plus que ça.
Oui. Bah oui, parce que enfin, effectivement.
Pas plus que ça, je sais pas quand même, parce que il y a l'homme qui change, mais il y a aussi la gauche qui se rachète une vertu tout d'un coup très populaire à un moment donné en 88 où elle a connu son virage de la rigueur, où elle arrive après la droite au pouvoir. Non, c'est une bonne prise de guerre. La photo là, elle est pas mal.
Cela dit, Lavilliers, qui est de la même génération de Renaud et qui lui aussi est né de la cuisse de 68, vous écoutez le dernier album de Lavilliers, il n'a pas fait de concession à grand-chose, hein, franchement, même à rien. Qu'il s'agisse d'écrire des textes, il est très beau d'ailleurs ce disque, sur les réfugiés ou sur la violence de l'économie aujourd'hui, il est toujours là. Renaud, c'est aussi un parcours individuel parce qu'il commence avec Hexagone et puis il finit avec Toujours debout.
Et embrasser un flic.
Oui.
Embrasser un flic.
Et soutient Fillon. Voilà.
Il
a soutenu Fillon à la présidentielle. Il a le droit d'ailleurs. Mais bon.
Il a soutenu Fillon, puis après il a dit qu'il ne le soutenait plus.
Ah, il a dit ça?
Oui.
Les médias en ont moins parlé.
C'est ça, quand il y a eu les histoires de. Les premières histoires, il a fait finalement, ce sera Macron, je crois. Je crois qu'il est parti sur Macron. Il s'est regauchisé. Mais ouais, non, il faut rappeler qu'en effet, Renaud. Dans ces années-là, je crois, fin 70-80, c'est un chanteur populaire, mais qui fait des numéros 1, quoi, au hit. Quand il a ce succès énorme, un homme politique ne peut pas arriver derrière et dire « Renaud s'est excité », parce qu'en fait, il cracherait sur un électorat considérable de gens qui trouvent que Renaud est tout à fait sympathique. Il dit « les flics, machin », oui, bah. Et c'est ce que je disais, quand on écoutait les paroles, c'est que ça s'est un peu raidi, aujourd'hui. Il y a des trucs que Renaud disait qu'aujourd'hui où on est dans un moment de raidissement de la République autour de ses autorités, ses flics, je suis pas sûr que ça passerait aussi bien. D'ailleurs, quand c'est fait dans le rap, ça passe pas. C'est ce genre de provocation. Donc il y a des procès.
Les attentats sont passés par là.
Ben oui.
C'était compliqué pour Renaud aussi à l'époque. Hein. Enfin, je veux dire, il a pu le chanter sans problème.
C'était dur de passer à la radio, par exemple.
Il y a quand même eu... Je ne sais pas s'il passait à la radio à l'époque. Tiens, vous n'y étiez pas encore, mais...
Si, c'était ça, les enjeux aussi, pour lui comme pour Brassens, c'était est-ce qu'il y avait une diffusion radio ou non. Il y a des chansons qui disaient, il y a des stations qui disaient jamais, on passera ça. Quoi.
C'est intéressant, ça aussi, ce serait une autre approche du sujet, les chansons qui ne passent pas à la radio, parce qu'elles sont trop subversives...
Mais Aurélie Sfèze a consacré un livre à ça, sur les chansons censurées, qui porte précisément le tampon ne sera pas diffusé à l'ORTF.
Oui. Il y en a encore aujourd'hui, des chansons qui...
Il n'y a plus de comité de censure.
Non, ça, ce n'est pas tout à fait une réponse.
Il n'y a plus de comité de censure.
Est-ce qu'il y a encore des chansons dont on se dit, dans une radio comme Radio France, non, parce que le sujet, parce que je ne sais quoi...
Je pense qu'au moment où... Bertrand Cantat a fait la une des Inrecuptibles, c'était peut-être pas le moment de diffuser des chansons de Noir Désir. Je pense que
c'est ce que
des gens se sont dit. C'est vraiment de cet ordre-là. Et puis c'est vraiment lié à une situation, à une actualité précise. Donc,
parce que vous parliez du livre d'Aurélie Sfez, effectivement, qui est extrêmement intéressant et qui montre bien qu'en en fonction des époques, les thèmes
censurés ne sont pas les mêmes.
Voilà.
La religion,
le sexe,
la peine de mort,
oui,
la guerre d'Algérie.
Bien la preuve que les chansons racontent le monde et que c'est une grille de lecture.
Et aujourd'hui, donc, le tabou, c'est Quentin. Voilà, on voit là la couverture. D'ailleurs, elle a un co-auteur, hein, Emmanuel Pierrat.
Emmanuel Pierrat, voilà. Juriste.
Aujourd'hui, le tabou, vous diriez, c'est Quentin. Enfin, le truc qui coince aujourd'hui, c'est Quentin.
Ah non, je pense pas qu'on puisse en faire le tabou. Ouais. C'était vraiment lié à une situation très, très conjoncturelle.
Et en plus, ce qui est intéressant dans le cas de Quentin, c'est que ce ne sont pas ses textes ou ses musiques qui sont mises en cause. Donc il y a la censure, ouais. Elle n'est pas sur l'œuvre, mais ouais. Sur la personne.
Ah, ouais.
Donc je ne sais pas s'il y a encore des censures sur l'œuvre.
Ben moi j'ai en tête un clip qui avait fait scandale il y a un an ou quelque chose comme ça. Alors je me rappelle plus de l'artiste, je suis désolé, mais juste dans le. Non. En fait, ce qui avait fait scandale et ce qui avait dû être flouté, etc., c'était des t-shirts de soutien à Adama Traoré. Des souhaits de soutien à Adama Traoré dans le clip. Et ça, parce que
alors
là, on touche...
Ça a été scandale sur M6, si ma mémoire est exacte.
Donc là, pareil, c'est le clip, c'est pas le message, machin. Enfin, si, c'est le message, mais quand même, dire, c'est pas les paroles. Ouais. Et finalement, les sujets sensibles sont toujours les mêmes. C'est tout ce qui va soutenir la légitimité de l'État... dès que c'est menacé, là, y a attaque. C'est-à-dire la police, la justice. Si tu dis « nique sa mère la juge », bon, là, tu vas commencer à avoir des problèmes... où on va te regarder avec un peu plus... Là, ça va commencer à taper. Ou là, voilà, les juges, la police, peut-être même le président, j'imagine.
Ou les femmes.
Ou les femmes.
Ou frapper des femmes.
Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, oui, oui.
Bah, c'est autre chose. Ça reste des éléments, à mon avis, de censure aujourd'hui encore.
Oui, oui, bah oui.
Heureusement.
Oui, tant mieux.
Vous confirmez ?
Je me sens pas très légitime pour confirmer parce que je ne décide pas de la programmation musicale de France Inter, par exemple, qui est la radio où je travaille.
C'était Black
Donc, je suis pas dans la position de pouvoir vous répondre, en fait.
Alors, quand je demandais, quand on préparait l'émission, est-ce qu'il y avait aujourd'hui un équivalent, on va dire, du pad groupé Balavoine, France Gall, Berger. Alors, les noms qui vous sont immédiatement venus en tête, alors c'est l'homme pâle, on en a parlé.
Oui, mais alors, c'est pour moi, ce n'est pas du tout l'équivalent. Mmh. C'est-à-dire que, pour moi, la chanson actuelle, elle est politique, mais pour d'autres raisons que dans les années 80.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que elle est politique, pas forcément par frontalement avec des textes, mais elle est politique par une attitude, comme cette pochette, par exemple, d'un rappeur donc, qui s'affiche... en travesti, on se demande si c'est Conchita Wurst qui s'est ratée ou, ou pas. Et l'un des thèmes importants, c'est celui du genre. Avec des artistes comme Eddie de Preto, comme Christina de Queens. Voilà. Sachant que ça raconte aussi toute l'histoire de la pop et que ça ne s'inscrit que dans la continuité de ce qu'un très grand homme a initié qui s'appelait David Bowie. Qui a changé le sens, d'ailleurs, de la chanson politique. C'est-à-dire que Bowie est vraiment celui dès 1972 qui a fait de la musique pop un enjeu politique individuel, qui était de dire, à travers la chanson, ce qui va être politique, c'est « sois toi-même ». Et il y a un moment historique de ça, qui est son passage à une émission de la BBC qui était très regardée, qui s'intitule Top of the Pop. Et Bowie arrive avec sa coupe mulet, donc en Ziggy Stardust, sa coupe mulet rouge, maquillé. Il avait une combinaison de toutes les couleurs hyper moulantes, des talons compensés, une guitare bleue électrique. Il a une attitude avec son guitariste extrêmement ambiguë. Et il y a un moment où il regarde la caméra en pointant le doigt. Ce qui est très fort, il chantait Ziggy Stardust. Et ça voulait dire quoi tout ça? Ça voulait dire, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi, tu peux être qui tu as envie d'être et t'envoies chier le reste du monde. D'apparaître comme ça en 1972, c'était totalement révolutionnaire. Et ça voulait dire, c'est ça oui, deviens ce dont tu as envie.
J'ai envie
et
dire,
ça c'est politique.
J'ai envie de dire, ça nous ramène au début de la discussion et à France Gall résiste. résiste aux normes. Alors, j'ai pas envie de, je suis pas en train de dire que Bowie s'est inspiré de France Gall.
Ah ben non, parce qu'il l'a très, très largement précédé. Hein. Résiste, c'est 81, et puis Bowie, c'est 72. Mais non, je trouve pas ça comparable, parce que Résiste, on est beaucoup plus dans un message politique frontal qui relève quand même du bon sentiment, ce qui n'était pas du tout le cas de David Bowie. C'est-à-dire que le message politique de Bowie, est, qui quasiment depuis bientôt 50 ans continue d'infuser, exactement,
on a le geste là,
qui continue d'infuser dans la pop mondiale et qui continue de lui donner un enjeu politique, c'est ça, c'est sois toi-même. Et si moi je le fais, toi aussi tu peux. C'est ça que c'est ce que veut dire cet index pointé.
J'entendais Bowie à la fin de sa vie, pour évoquer l'industrie du disque, disait aujourd'hui, si je me pointais, je signerais pas. Est-ce que ça dit pas aussi que cette parenthèse là, elle est refermée aujourd'hui, et que Christian the Queens ou les autres, ils sont subversifs, mais jusqu'à un certain niveau quand même. On n'est pas au niveau de la subversion d'un David Bowie. On est là, bien sûr, ce sont des corps qui assument le caractère androgyne souvent, parfois une bisexualité, bon, mais on reste sur des codes de très grand public quand même, là où Bowie a quand même défriché des chants qui jusqu'alors étaient réservés à l'art contemporain, par exemple.
Oui, c'est vraiment celui qui a fait entrer l'art contemporain dans la musique pop, mais je pense je pense à des figures comme Björk, par exemple, qui aussi a totalement défriché. Ouais. Je veux dire, dans le genre, elle a vraiment taillé les ailes.
Bien sûr.
Mais dans plein de domaines. Et dans la façon de faire entendre une voix de femme, avec des bruits de bouche, avec un souffle, c'est la mise en avant sonore du corps d'une femme, autre que en se mettant le doigt dans la bouche. Il y a ça. Et puis, c'est aussi rendre populaire de nouveaux sons de musique contemporaine. Et d'ailleurs, il y a Libé qui avait fait le parallèle entre la muséification de Björk au MoMA et puis l'expo David Bowie qui avait lieu à la Philharmonie.
Il y a une héritière. Hein. En France, c'est Camille.
Oui. Oui, oui, complètement. Oui.
Donc c'est pas fini, peut-être.
Non, mais
en moins trash.
En plus, je trouve que le fait de dire aujourd'hui il n'y a plus autant de figures subversives, mais il faut se remettre aussi dans le contexte de la pop. C'est-à-dire qu'en 70, le rock'n'roll n'avait que 20 ans. Et la pop musique, une dizaine d'années. Bah là, on est en 2018. Donc,
Usul, sur ce constat qu'aujourd'hui, on va dire, le message politique le plus fort qui passe à travers la chanson, c'est tout ce qui concerne de près ou de loin le genre, le jeu avec les codes de genre, la transgression des barrières de genre, l'androgynie. Vous êtes d'accord ?
De toute façon, nous, on avait notre équivalent, on avait Indochine, on avait.
Nous,
en France.
C'est qui nous ?
En France.
Ah, en France. Ceux qui sont nés entre les deux chocs pétroliers. En
fait. Ah. Il y a Indochine, il y a Mylène Farmer qui a fait ça aussi chez nous. Oui, mais en même temps, c'est une question hyper contemporaine. Et à la limite, ils avaient de l'avance. Parce que là, maintenant, elle n'a jamais été aussi prégnante et importante que maintenant, de toute façon, cette question-là. Ouais. Et elle n'est pas rangée dans l'intime, dans le machin. Depuis 68, on sait que l'intime, c'est politique. On est dans de la chanson politique aussi. Et il y a un engagement, il y a un prix.
Mais ce qu'il est en train de dire, je pense, Rebecca Manzoni, c'est que Mylène Farmer, en son temps, elle est quand même précurseuse et un peu isolée, on va dire, dans l'exploration du thème. Tandis qu'aujourd'hui...
En France.
Tandis qu'aujourd'hui, alors vous avez cité Christine and the Queens. Et alors vous avez cité aussi, alors là, je dois dire, là encore, c'est vous qui m'avez appris son existence, Eddie De Pretto. Alors, chez qui c'est.
Il sort un album là aujourd'hui, non ?
Oui.
Il sort un album.
Ces
jours-ci. Oui. Enfin, au mois de mars, en tout cas.
Chez qui, pour le coup, dans le morceau de chanson qu'on va entendre, c'est pas vraiment visuel, mais c'est dans les paroles. Je voudrais qu'on écoute Kid.
Tu seras viril, Kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, Kid, Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais, si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes, tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques, de ces femmes d'origine qui féminisent, cobisent, sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et viendras mon petit héros historique. Virilité abusée. Virilité abusée.
Alors moi, je trouve ça absolument magnifique. Alors c'est très très curieux parce qu'en même temps, par rapport au clip très très monté, des débuts du clip, là on a un plan fixe dans un décor, alors je sais pas où c'est d'ailleurs.
Je sais pas non plus. Je ne sais pas d'où cette cheminée.
Et les statues, donc on a une image extrêmement recherchée, mais en même temps, voilà, assez simple à faire. Enfin, je veux dire qu'il ne nécessite pas d'immenses moyens, sauf peut-être un escabeau pour monter sur la cheminée. Mais, les paroles sont...
Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il commence par « Tu seras viril, mon kid », qui est le détournement du poème de Kipling, « Tu seras un homme, mon fils ». Et ce qui est intéressant, c'est que Bernard Lavilliers, qui pourrait être, on va dire...
Son grand-père.
Voilà, oui. J'allais dire le papa un peu âgé, mais le grand-père, donc, a fait une adaptation musicale de ce poème de Kipling. Et ça raconte quelque chose. Il y a le poème de Kipling, Lavilliers l'adapte en musique, et c'était dans les années 80 d'ailleurs. Et 30 ans plus tard, un garçon qui n'a pas 30 ans en fait une critique frontale de la virilité et de ce qu'on en exige.
Oui, parce que je ne connaissais pas. Ouais.
Parce que Lavilliers, il est encore vraiment dans la figure un peu patriarcale du père et du fils. On est vraiment dans l'esprit du poème, si je me souviens bien. Il n'y a pas de jeu avec le...
Après, l'image de Lavilliers est beaucoup plus ambiguë.
Oui, bien sûr.
Sur ce texte...
Sur la masculinité ?
Oh bah oui.
Je pense aussi le propre des chansons populaires. C'est pour ça que je trouvais ça vachement intéressant. Le propre des chansons populaires, c'est aussi d'avoir un texte qui va parler. Voilà. On n'est pas dans... des gens qui ont un rapport, on va dire, familier à la musique vont souvent écouter les paroles avec, finalement, assez d'attention. Il faut que ça raconte une histoire, par exemple, dans le R&B. Non, mais si, dans des genres populaires, comme par exemple le R&B. Ça peut être toujours la même histoire, il faut que ça parle. C'est pour ça qu'il y a autant d'histoires d'amour aussi dans les chansons. Parce que l'histoire d'amour, fatalement, ça nous touche tous. Il n'y a pas de lien de classe sociale. Enfin, elles sont un peu différentes selon les classes sociales, mais c'est pas comme si on racontait une histoire de golf, voilà, qui là ne va concerner que les gens qui jouent au golf. Voilà. L'histoire d'amour, théoriquement, on en a tous ou toutes. Donc, et le genre, c'est pareil. L'avantage aussi, c'est pour ça aussi que c'est quand même un super terrain, c'est qu'il y a toutes ces chansons d'amour avant, ça parle beaucoup d'amour, et on se retrouve à l'adolescence à se chercher le genre. Mais c'est universel de parler de genre, en fait. Parce qu'on y est tous confrontés à l'adolescence, des choix ou pas, on le subit.
Sur le faux que ça parle, vous n'êtes pas d'accord ?
Oui, mais je rebondis juste là sur cette dernière chose, sur le côté le genre, c'est une question universelle. En l'espèce, il n'y a guère que la chanson qui en parle autant. Mmh. Dans la société.
Il y a des films, quand même.
Oui, mais ça n'a pas le même impact. Le propre d'un tube, c'est quand même... vous êtes au supermarché, vous êtes dans un ascenseur. En plus, aujourd'hui, il y a de la musique partout. Le silence n'existe plus, c'est devenu quasiment un luxe. Et il y a ce côté où on baigne toujours dedans. Donc, il y a un effet beaucoup plus immédiat. Qu'un film où il faut s'asseoir, aller dans un cinéma ou regarder un film chez soi, etc. Donc je trouve que c'est pas du tout la même ampleur. Mais dans le fait qu'on s'intéresse au texte, je suis pas tout à fait d'accord, parce que dans la vidéo que vous avez publiée sur la chanson des années 80, j'ai appris que le tube de Gold, un peu plus près des étoiles, en fait, ça parlait des boat people. Mmh. Moi, j'étais passée. Et j'adore ce genre d'anecdotes. Et d'ailleurs... La plupart du temps, enfin l'une des chroniques que je fais le vendredi dans Tubenco, c'est ce que je travaille. Parce que la puissance d'un tube, c'est le truc qui a l'air inoffensif et qu'on fredonne sans y penser. Je suis persuadée qu'il y a plein de gens qui ont manifesté contre le mariage pour tous et qui connaissent par cœur les paroles de Sans contrefaçon de Mylène Farmer. Mmh. Puisqu'il faut choisir... à mon tour,
Je suis pas sûr, là.
Ah mais il y a quand même ce côté dans le tube de propagande, ouais, de contrebande, c'est-à-dire, et c'est ça que je trouve puissant, c'est-à-dire de faire passer une idée sans forcément avoir le poing levé. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je viens d'une génération, donc celle qui est née entre les deux chocs pétroliers, mmh, où donc fille de gens qui ont vécu 68. Qui écoutait à la maison des chansons militantes, de qualité, hein, mmh, on est d'accord, Ferré, Dominique Grange, voilà. Bon, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais moi ça me foutait un bourdon pas possible, ces trucs-là. C'était le dimanche soir au secours, hein. Et il y avait en plus ce côté où une génération, donc celle qui a vécu 68, moi j'en ai entendu le côté, ouais, bah, si tu peux prendre la parole aujourd'hui, l'égalité des femmes, blablabla, c'est aussi lié à 68. J'avais envie de dire, mais hey, qu'est-ce qui nous reste à nous, à notre génération, qu'est-ce qui nous reste à faire,
à
voilà. Mmh. Donc le côté chanson militante, point levé, on va vous dire ce qu'il faut, ouais, penser. Et comme dirait Daniel Prévost, il y a un côté, tu dis, avant de refaire le monde, on va déjà refaire des merguez, quoi.
Moi, faut que ce soit en contrebande, voilà. Pour que ça vous touche, faut que ce soit en contrebande.
Ben, je trouve ça beaucoup plus fin. Moi, non seulement je trouve ça plus fin, mais en plus, quel est l'intérêt de prêcher les convaincus? Ce qui est intéressant. Ah. Dans la chanson politique, c'est précisément qu'elle touche des gens qui ne sont pas acquis à la cause, okay, qu'elle défend.
Donc on commence à peine l'émission. Là, ça fait une heure qu'on parle, mais on va commencer l'émission. Donc vous désinguez finalement tous les chanteurs des années 80 qui, eux, étaient dans la démarche contraire de la contrebande, qui surlignaient, qui avaient, ouais, des intentions précises.
Mais ils avaient pour eux de faire d'abord de la chanson. C'est pour ça que Gold, on se rappelle plus du sens des paroles. C'est, ouais, que d'abord, c'est une bonne chanson.
C'était du groove.
Ouais, enfin, Renaud, je pense qu'il a vraiment un message précis à faire passer, ouais, dans Hexagone. Bon, je veux dire, non, mais c'est une formidable chanson.
Un
elle est ultra efficace. Mais
les chansons engagées de Renaud, elles sont plus des années 70 que des années 80. Oui. C'est-à-dire que c'est ce que vous racontez dans votre vidéo. Dans les années 80, l'enjeu politique de la chanson, il s'est là aussi déplacé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'idéologie. Il y a ce côté. La politique ne peut pas changer le monde, donc les chansons non plus. On va totalement enlever toute idéologie de ça, et donc on va faire de l'humanitaire. Mmh. Et la chanson humanitaire des années 80, qui commence en Angleterre avec Do They Know It's Christmas, de Bob Geldof.
Do They Know It's Christmas Time.
Voilà. C'est 84.
C'est avant World War.
Ouais. Voilà, en France, on a eu la chanson Les Restos du Cœur, composée par Goldman. Ça raconte quoi? Ça raconte aussi la privatisation de la charité publique.
Mmh. Non, on est d'accord.
Donc, ouais. Il n'y a pas une question d'être de droite ou de gauche, mmh, là-dedans. Soyez généreux.
Ou la chanson de l'Éthiopie, ouais, là. Ouais. On voit des extraits de la chanson, ouais, pour l'Éthiopie, qui était faite par Renaud, d'ailleurs,
ouais,
qui raconte bien, aussi, ouais, les nouveaux rapports Nord-Sud, en fait. Ouais. L'influence européenne.
Mais, ouais. Ouais. En même temps, c'est vrai, mais les années 80, c'est quand même politiquement les années des bons sentiments. Là où les années 70 vont taper où ça fait mal, quand même. On va aller à l'encontre, on va aller militer. C'est en ça que c'est assez militant, en fait. C'est beaucoup plus militant, effectivement, que We Are the World, We Are the Children, qui est quand même un discours assez, assez angoissant, vous voyez.
Et qui en dit beaucoup. Années 80, les années des bons sentiments, vous êtes d'accord?
C'est le moment où, en effet, on tord, on peut prendre un combat politique et le tordre en bon sentiment et en moraline. Oui, c'est un peu l'histoire de...
Dans votre vidéo, excusez-moi, vous ne parlez pas de bon sentiment. On a l'impression que vous êtes vraiment... Vous trouvez ça formidable, quoi.
L'humanitaire ?
Oui, enfin, toutes ces chansons qui prêchent pour la tolérance, le métissage, etc. On n'a pas le sentiment que vous les qualifiez de bons sentiments.
Non, mais c'est vrai que c'est, ouais, aussi comme ça que ça a pu être reçu, ouais, et que dans l'esprit de certains. Mmh. Je pense que, par exemple, France Gall, comme on l'a vu, j'ai regardé des longues interviews, etc., elle n'aime pas trop parler de politique.
Non.
elle aime pas. Là, j'ai glané un petit bout, elle dit oui, on aimait bien faire montrer des représentations, j'ai glané ce petit bout-là, mais j'ai dû me fader tout ça avec Sabatier.
Mais en même temps, c'est normal, hein. C'est une génération qui aimait pas tellement parler, qui aimait chanter, mais qui était pas...
Si, Balavoine, il fallait pas...
Balavoine, ouais. Mais Balavoine était vraiment plus militant, mais Berger-Gall, il c'était uniquement en promo... Et jamais sur le fond.
Sur le débat lancé par Rebecca Manzoni, là, qui est de savoir, finalement, est-ce que ce n'est pas plus efficace quand ça passe en contrebande ? C'est-à-dire quand les gens chantonnent et qu'ils ne savent pas ce qu'ils chantonnent, en fait.
J'en parlais avec mon collègue à France Info, Bertrand Dical, qui est une espèce d'encyclopédie de la chanson française, et pas seulement d'ailleurs. Et il me dit qu'il y a un mot dans une langue étrangère, mais il ne se souvient plus quelle langue, pour dire, pour qualifier, vous savez, quand vous avez une chanson en tête, qui correspond au sentiment que vous avez. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois, ça. Ça vous arrive ?
Pas souvent. C'est le principe du tube. Ça vous rentre dans la tête au moment où ça doit vous rentrer dans la tête.
Voilà. Et surtout, elle ressort au moment où ça correspond à votre sentiment du moment. Vous êtes fatigué, vous avez une chanson qui parle de fatigue, etc. Et il y a un mot dans une langue étrangère qui dit ça. Et je trouve que c'est parfait pour l'infusion, l'idée que ça vous rentre dans la tête, dans votre corps, et que ça a sa place à un endroit. Alors, est-ce que c'est politique, ça ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça dit à quel point ces tubes nous entrent dans la peau. Alors, je ne sais pas dans quelle... Il faudrait que je lui redemande dans quelle langue c'est...
Puis après, il faudrait faire des neurosciences pour montrer comment ça agit, précisément.
On fera une deuxième émission.
Je voulais juste revenir sur la chanson humanitaire et sur la façon dont elle est perçue. C'est que la première chanson humanitaire des années 80, c'est donc celle « Do They Know It's Christmas Time », écrite par Bob Geldof. On est en 84. C'est une chanson qui a été... que Bob Geldof lui-même a reprise en 2014 pour lutter contre... pour récolter des fonds contre la propagation du virus Ebola. Et... Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a un collectif qui a protesté en disant que cette chanson, c'était vraiment contre-productif, misérabiliste et post-colonialiste pour l'Afrique. Do they know it's Christmas time? Donc, savent-ils que c'est Noël? Ben déjà, non, ils peuvent pas vraiment. Ils le savent pas forcément parce que les gens qui sont concernés par le virus Ebola sont majoritairement musulmans. Donc... Voilà, donc ils s'en foutent un peu de Noël. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que le sens de la chanson humanitaire, s'est totalement épanouie dans les années 80, est totalement décrié aujourd'hui.
D'accord.
C'est hyper intéressant. Ouais. Et peut-être aussi que les gender studies aux États-Unis, ou les études sur le genre, surtout pas la théorie du genre, hein, les études sur le genre, font que notre regard sur des chansons qu'on a pu aimer à un moment donné, aujourd'hui sont considérées comme étant extrêmement sexistes, machistes, et qu'on ne veut plus les entendre. Donc c'est vrai que le champ de notre connaissance et de l'université a certainement aussi bouleversé notre perception des chansons.
Perception et réception. Très bien, merci à tous les trois pour cette première exploration tout à fait fascinante sur les messages qui passent en contrebande et ceux qui passent au grand jour. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec un formidable morceau de musique, le générique de fin d'Arrêt sur Image, et à la semaine prochaine.